Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneau.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec les débatteurs du soir. Georges Fenech, mon confrère du Figaro, Alexandre Devecchio, Philippe Doucet, membre du bureau national du PS et la porte-parole de La République En Marche, Prisca Thévenot. Depuis le début de l'année, le hashtag Saccage Paris rencontre un franc succès sur Twitter. 2 millions de publications. Les riverains, les touristes postent des photos de la saleté à Paris, des ordures sur la voie publique, du mobilier urbain abîmé. Selon une étude publiée de l'IFOP, 84% des Parisiens considèrent que la ville est sale, 39% très sale. Quand on pose la question de savoir si c'est Anne Hidalgo la coupable, 4 Parisiens sur 5 disent oui. Quant à Anne Hidalgo, qu'est-ce qu'elle dit? Eh ben voilà ce qu'elle dit, elle était sur France 3 aujourd'hui.
Vous savez, j'ai vécu 3 ans de bashing permanent, hein, vous en souvenez sûrement. Et donc, j'ai connu ça, donc je sors forte de cela. Bon. Et bien sûr qu'il faut régler les vrais sujets des Parisiens. Je suis très attachée à ma ville et j'ai envie qu'on progresse. La question, par exemple, des déchets est un sujet national. Il faut qu'on réduise les déchets à la source. Et puis, c'est aussi un sujet national par les incivilités. Bon. Il faut que l'on redonne par l'école, notamment, le goût du respect des règles communes.
Voilà, c'est pas sa faute, c'est la faute est nationale. Prisca Thévenot, je vous ai vu beaucoup sourire pendant le sonore d'Anne Hidalgo qu'on vient de passer.
Je la trouve formidable. Je la trouve formidable parce qu'elle rentre dans un florilège d'indécence et de propos abjects. Écoutez, quand on rentre dans un système de victimisation, non mais pour être très clair, quand elle rentre au début de sa prise de parole, là, elle rentre dans un système de victimisation, bashing, etc. Je rappelle qu'elle est élue, elle a demandé à être élue, personne ne l'a forcée, donc elle prend ses responsabilités. Les Parisiens ne sont pas contents. Voilà, les Parisiens ne sont pas contents. Vous disiez justement, 4 Parisiens sur 5 ne sont pas contents, notamment sur le sujet de la propreté. Il ne faut pas qu'elle considère que c'est pour sa propre personne, mais c'est la gestion de la ville qui, de surcroît, est la première ville de France, c'est la capitale de France. Ensuite, quand elle dit oui, pour les déchets, il faut éduquer les Parisiens, c'est toujours la même histoire. C'est les Parisiens qui sont sales, qui ne savent pas se comporter. Moi, je vais vous donner un exemple très concret, et là, je vais vous dire très clairement. Je ne vais pas vous parler d'un maire qui est de la majorité présidentielle parce que ça n'aura échappé à personne, il n'y a pas de maire de la majorité présidentielle, mais le maire du 17e qui s'appelle Geoffroy Boulard, qui est un maire LR, et qui a justement expliqué qu'il y a des incohérences assez dingues sur la façon dont la propreté est gérée à Paris, qui n'est pas du ressort des maires d'arrondissement parce que Anne Hidalgo le refuse. Par exemple, les personnes qui nettoient les rues passent avant que le ramassage des poubelles ait lieu. C'est complètement absurde, on ne fait pas ça chez soi. Enfin, je veux dire, il y a des incohérences assez dingues et elle ne veut pas s'y mettre. Ensuite, moi, je vais aussi vous dire...
C'est-à-dire que la poubelle, elle reste toute la journée, c'est ça ?
Non, mais ça veut dire qu'en fait, on sait très bien que quand les éboueurs passent pour ramasser les poubelles, ça peut tomber. Oui. Donc, c'est plus logique de faire passer ensuite le nettoyage des rues après le passage des éboueurs et pas avant. Mmh. Voilà, c'est des choses aussi simples et bêtes que ça, qui ne sont pas mises en place. Et quand on lui montre que ça ne fonctionne pas, elle refuse d'écouter. Ensuite, moi, il y a aussi d'autres sujets dont on parle très peu et qui sont extrêmement importants. On parle très peu de ce qui s'est passé dans la rue de Trévis. Il y a eu une énorme explosion où il y a eu énormément...
Dans le 9e arrondissement, voilà, près des Folies-Bergères.
Énormément de victimes. Et notamment, moi, je suis en lien avec une des victimes qui s'appelle Inès, qui a subi sa 40e intervention chirurgicale ce mois-ci. Ils attendent ces victimes une indemnisation qui est débloquée par l'État, qui a été l'objet d'une question au gouvernement. Anne Hidalgo refuse encore de signer l'accord cadre pour ses victimes.
Pourquoi ?
Ben voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Elle est interpellée sans cesse. Je veux dire qu'à un moment, je veux bien le côté victimisation, etc. Mais je pense qu'elle doit rentrer en responsabilité, d'autant plus qu'elle est aujourd'hui en train de dire qu'elle a très bien géré Paris et qu'elle court pour les présidentielles. Je pense qu'il s'agit d'abord d'écouter les gens qui l'ont élu, les Parisiens, même si ce n'est pas un suffrage direct, mais qui l'ont élu, qu'elle s'occupe de Paris en priorité. Il y a tellement de choses à dire. Je pourrais parler pendant 3 heures sur la mobilité, par exemple, et je vais finir sur ça. Elle veut rénover Paris. Elle fait des travaux partout. Est-ce qu'elle s'est posée une seule fois la question de la mobilité à Paris ? Je parle de la mobilité des gens qui sont porteurs de handicap. Ça ne l'intéresse pas. Donc, je veux dire, un moment... C'est pour ça que...
Elle enlève les panneaux de signalisation en attendant.
Voilà, non mais c'est tout. C'est pour ça que quand je dis que c'est un florilège d'indécence et d'abject, c'est ça. Elle oublie le sujet premier, qui est normalement, je pense, une valeur de gauche, qui est le côté humain. Est-ce qu'elle considère enfin, une bonne fois pour toutes, les Parisiens ?
La question est posée, Prisca Thévenot. Qui prend la suite ? Alors, Alexandre Devecchio ?
Je ne vais rien rajouter sur Anne Hidalgo. Il est évident que la propreté, c'est de ses compétences. C'est ce qu'on demande... le minimum qu'on demande à un maire. Donc, reporter la balle sur l'État, ça me paraît assez indigne. Mais ça, tout ça montre, je crois, deux difficultés que va avoir Anne Hidalgo, puisqu'elle veut être également candidate à la présidentielle. La première, c'est son... Mmh. Oui, elle l'est. Lapsus.
Elle veut être présidente.
C'est d'abord son bilan. Je pense que ça va être le sparadrap du capitaine Haddock, son bilan parisien, et surtout peut-être le décalage finalement entre sa politique à Paris, Paris, ville la plus riche de France, politique sociétale faite pour les bobos, et ce que doit être le Parti socialiste.
Et puis le réceptacle d'un tourisme international, quand même. Il y a ça aussi.
Ce qui est historiquement le Parti socialiste, c'est-à-dire ce qui est censé être, ça fait bien longtemps qu'il ne l'est plus, mais là c'est caricatural avec une candidate pareille, le grand parti des classes populaires. Et là on voit bien que ça va être très très difficile de leur parler et qu'elle va être prise sans cesse dans ses contradictions, parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'elle voulait baisser les taxes sur le carburant pour quelqu'un qui a attaqué dans sa ville autant la voiture. Alors moi je ne suis pas contre baisser les taxes sur le carburant, mais il faudrait savoir à un moment donné. Donc ça va broyer, je dirais, sa crédibilité sur tous les autres sujets. Et donc choisir une candidate maire de Paris à l'heure où on a en plus un clivage entre les grandes métropoles et ce qu'on appelle la France périphérique, le reste du pays, ça me paraissait peut-être pas le plus judicieux pour le Parti socialiste.
Vous parlez des classes populaires, justement, 90% des habitants du nord-est de la ville, donc 18e, 19e, 9e et 10e, se plaignent de la saleté. 96% des personnes interrogées sur la saleté appartiennent aux classes modestes, des personnes gagnant entre 893 et 1318 euros par mois. Toutes ces personnes-là sont mécontentes. Qu'en pense l'élu local, Philippe Doucet ?
Il y a deux choses. Trois choses.
Et puis membre du Parti Socialiste, accessoirement.
Oui. Accessoirement.
Vous avez la lourde tâche. Oui, vous êtes entre les deux chaises, là.
Elle a vécu le bashing avant sa municipale de 2001.
De 2020.
Elle l'a vécu en studio.
Elle l'a vécu. Le Figaro a fait une campagne interminable sur le sujet. C'est vrai. Il faut reconnaître ce truc-là. La droite a essayé.
Mais la sociologie de la France n'est pas celle de Paris.
Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, la droite a essayé de la déboulonner. Ça n'a pas marché. Et ils ont fait une campagne avec la puissance que la droite peut avoir à travers un certain nombre de médias. Et En Marche aussi. Voilà. Bon. En Marche, ils n'ont pas réussi, ils avaient des candidats un peu particuliers, on va dire. Donc,
Parlons d'Anne Hidalgo, peut-être. Ne changeons pas de sujet.
Ça t'arrange bien sur ce coup-là. On est charitable, c'est dimanche soir.
Benjamin Griveaux et Agnès Buzyn.
Voilà, bon. Deuxième aspect des choses, la propreté des villes, en général, c'est des sujets toujours très compliqués, parce que derrière... moi, je l'ai vu quand j'étais maire d'Argenteuil. On a deux sujets. Le rapport à l'espace public des uns des autres fait qu'on a finalement la logique du respect de l'espace public. C'est une catégorie qui a disparu, une mentalité qui est beaucoup en voie d'émission. Et deuxièmement, les aspects logistiques de l'organisation de ce type de sujet comme celui que tu évoquais, c'est pas des minces affaires, parce que là où avant, comme me disaient les chauffeurs de benne, avant on passait, on mettait tout dedans, dans la benne. Là, aujourd'hui, il y a le tri, les poubelles à tri, il y a les conteneurs
retirés de ça. Ça marche très bien dans d'autres villes, Philippe Doucet.
Argenteuil,
comment ça marche?
Argenteuil, c'est compliqué. Ça a été compliqué, c'est compliqué. Il y a des quartiers, c'est compliqué.
Vous avez 84% de mécontents
Je ne sais pas. Par exemple, pour vous donner des exemples très concrets, on avait mis des colonnes enterrées et les équipes mettent des colonnes enterrées. Bon. Et au final, tout le monde me dit c'est super mieux. Et on constate en fait que c'est pire.
C'est quoi les colonnes enterrées?
Les colonnes enterrées, c'est que vous ne sortez plus des poubelles, mais en fait vous faites un trou et vous mettez des colonnes.
Prenons des grandes villes, Strasbourg, Bordeaux, ça m'a l'air tout à fait propre, par exemple.
Et on sort ce truc-là. Et au final, on constate que c'est les enfants qui descendent des sacs dans les certains nombres de quartiers. Qui se descendent. Et donc, on avait des problèmes pour les poubelles pour mettre les colonnes enterrées. Donc, on a changé le type de colonnes enterrées. Donc, si vous voulez, il y a quand même des aspects très pratiques.
Je ne savais pas que sur votre carte de visite, il y avait également avocat d'Anne Hidalgo.
Non, mais
nous allons poursuivre les discussions juste après ça. A tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneau.
Georges Fenech, Alexandre Devecchio, Philippe Doucet et Prisca Thévenot pour parler de la propreté à Paris. Justement, on rigolait un peu parce qu'il y a 21% des Parisiens qui veulent éliminer les pigeons. Tiens. Ça vous fait réagir, Alexandre Devecchio ?
Non, encore une fois, contradiction des Parisiens. Bon, je pensais qu'ils étaient écolos, ils veulent tuer les pigeons. C'est pas ce qu'il y a de plus gênant à Paris, les pigeons.
Il y a des gens qui disent que c'est des rats avec des ailes.
Oui. Mais j'ai entendu aussi qu'il y avait certains Parisiens qui donnaient à manger aux rats, qui les trouvaient mignons.
Si le seul problème de Paris, c'était les pigeons, franchement, si le seul problème de Paris, c'est les pigeons, je veux bien. Mais on l'a dit juste avant, il y a bien d'autres sujets à traiter avant ça.
C'est vrai que, alors, juste avant la pause, nous étions avec l'avocat de Madame Hidalgo, en l'occurrence Philippe Doucet, qui en était aux colonnes enterrées.
Non, ce que j'ai expliqué, parce que pour tout dire aux téléspectateurs, ce qu'on dit tout, évidemment... L'ensemble des intervenants se moquaient de moi parce que j'expliquais comment les questions de propreté étaient, y compris techniquement, des fois compliquées. C'est-à-dire que des dispositifs, a priori, qu'on nous vend comme intelligents, ne fonctionnent pas toujours.
Bon, voilà, et donc, comment on faisait avant, c'est ça le truc. Pourquoi ça s'est dégradé en quelques années
avant, on était moins sales. Non, mais Anne Hidalgo, elle dit ça. Elle dit les gens sont sales, j'y peux rien.
Donc,
en gros, c'est ça qu'elle a dit.
Par exemple, qu'on voit dans Paris, que je peux voir dans Paris sur ce qu'on appelle les dépôts sauvages, c'est-à-dire que des gens déménagent, font des travaux, ils mettent tout sur le trottoir. Auparavant, ça fonctionnait pas obligatoirement comme ça.
On appelle les encombrants pour ça.
Oui, mais d'accord, il faut appeler les encombrants, il y a des jours et tout. Oui, mais il faut respecter le jour. Donc, par exemple, sur Argenteuil, il a fallu qu'on mène une bataille intense sur les encombrants. Vous voyez, c'est une galère totale.
Non, mais
parce
sur
que,
ça.
Y compris... Ouais. Non, mais pour des trucs tout bêtes, vous voyez, sur les déchetteries, les dépôts, quand vous déposez des dépôts encombrants, c'est payant. Et donc, il y avait toute une série d'artisans qui ne pourront pas payer la déchetterie, déposer sur notre territoire.
On tourne en rond. Voilà.
C'est quand même triste de voir que la plus belle capitale du monde soit la capitale la plus sale du monde, quoi. Parce que quand on va à Milan, quand on va, je ne sais pas moi, à Rome, quand on va
Rome, c'est pas très propre,
à Budapest, quand on va et d'autres pays, même dans des pays de l'Est, on est frappé par la propreté. Vraiment. Et quand on vient à Paris, les étrangers qui viennent à Paris le disent aussi, il y a un problème de propreté. Alors, sans doute qu'il y a aussi une question un peu, entre guillemets, culturelle. Il y a beaucoup d'incivilité, il y a moins de discipline, ça c'est sûr. En ce sens, Anne Hidalgo, quand elle parle d'éducation, elle a pas tort non plus. Mais quand même, il faudrait peut-être augmenter les équipes de propreté, augmenter le nombre de poubelles. Il y en a, j'ai l'impression, des poubelles, vous savez, les corbeilles, quoi, avec le plastique. On en voit de moins en moins. Et puis sanctionner. Il faut aussi. Il y a une police municipale que je sache maintenant à Paris. Elle est toujours pas en place.
Mais non, toujours pas.
Oui, mais elle est sur le papier.
Alors que sur la loi le permet, elle le veut toujours pas.
Non, mais c'est pas possible.
Les Parisiens veulent 61% veulent faire payer des amendes aux gens qui salissent.
Mais il faut.
Mais
bien sûr.
Je croyais que ça existait déjà. Oui. 50%
souhaitent. La législation est fragile sur le sujet. Ouais,
vous jetez un mégot de cigarette, c'est 135 euros, je crois.
À Singapour.
À Singapour, c'est pas 135 euros, ça doit être beaucoup plus. 50% souhaitent renforcer les effectifs et les moyens des services des voiries municipales et 22% veulent multiplier les poubelles dans les rues.
Voilà. Ben oui.
Et 21% veulent éliminer les pigeons.
Non, mais on peut avoir le sujet sur l'éducation, etc. Et je pense qu'il ne faut quand même pas oublier quelque chose. Disons les choses franchement, Anne Hidalgo ne sait pas gérer la propreté. Et moi, je pars du principe où si elle ne sait pas le faire, qu'elle le dise franchement et qu'elle accepte de dire oui à la majorité des maires d'arrondissement qui, de tous bords confondus, lui demande, alors sauf de son bord bien sûr, lui demande de déléguer cette compétence aux mairies d'arrondissement. En plus, j'ai envie de dire, politiquement parlant, elle a tout intérêt à le faire, puisque demain, on lui dira, mais Madame Hidalgo, votre ville est complètement sale, elle dira, mais c'est pas de ma faute, c'est les maires d'arrondissement.
Mais elle le dit déjà.
Non, elle dit pas que c'est la faute des maires d'arrondissement, elle dit que c'est la faute des Parisiens, c'est encore mieux. Donc je pense que sur ce sujet-là, il faut arrêter de tourner en rond et vraiment revoir la façon dont la compétence de la propreté est gérée. Vous parliez également des poubelles.
Oui.
Les poubelles, vous avez vu comment... les poubelles, elle nous dit en permanence, elle a fait de très belles poubelles, bien designées, etc., avec des trucs en toiles qui se font manger directement par les rats, typiquement. Je veux dire, à un moment, je pense qu'Anne Hidalgo, elle doit faire un truc, c'est sortir de sa mairie, et descendre et marcher dans les rues de Paris. Et elle se rendra compte à quel point c'est extrêmement désagréable. Pas que pour les Parisiens d'ailleurs, pour une partie aussi des Franciliens. Paris n'appartient pas aux Parisiens. Et ça, il va falloir qu'elle l'entende une bonne fois pour toutes.
Ce chiffre de 84%, il est amusant. En tout cas, il est révélateur. Il est révélateur parce qu'en 1974, l'année de ma naissance, 84% justement des Parisiens considéraient que leur ville était sale. Donc on arrive au même point. Mais entre-temps, en 1991, après 14 ans de mandat de Jacques Chirac à la mairie de Paris, ce chiffre n'atteignait que 53%.
C'est ça, on voit bien qu'il y a une dégradation. On voit bien, il y a un sentiment en tout cas de dégradation. Et ajoutez à cela que Paris est un immense chantier. Vous avez vu, il y a des travaux, mais partout. On ne voit pas d'ailleurs les gens travailler, effectivement, mais il y a des travaux, des barrières partout. On a des bouchons, Porte de Champéret, Porte Dauphine. C'est, moi, j'emprunte ce chemin tous les jours, c'est très très compliqué.
Ah bah, c'est-à-dire ce côté-là, Dauphine, Terne et Maillot, on ne peut plus passer.
On ne peut plus passer. Ouais. En plus de ça, maintenant, la vitesse est limitée à 30
km/h. Parce qu'il y a le tramway qui est...
Ça devient invivable, véritablement, quoi.
Monsieur Doucet ?
Non, monsieur Doucet, il n'y a plus aucun argument ajouter. Pour
les
défendre.
Les plaies effondrées.
Non, je ne suis pas effondré.
Il est
pas...
au fond de ça.
Non, je ne suis pas effondré. Non. La bête est coriace. Donc, non, je voudrais plutôt revenir sur ce qu'évoquait monsieur De Vecchio tout à l'heure sur... la ligne politique d'Anne Hidalgo. Moi, je suis convaincu que si elle veut construire un chemin pour la présidentielle, il faut qu'elle se réapproprie l'ensemble de ce que sont les fondamentaux de la social-démocratie. Voilà, donc elle a commencé sur France 3, là, sur la question des salaires. Je pense qu'il faut... la question, l'écologie, il y a un candidat écologiste qui est Yannick Jadot. L'espace existe entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Et c'est un espace social-démocrate. Il y a une dimension écologiste, elle est incarnée par Jadot. Cette question de la social-démocratie, il faut qu'elle s'en saisisse. Et qu'elle, effectivement, qu'elle dépasse son statut de maire de Paris pour aller à la rencontre des Français, mais à partir d'une ligne politique. Parce que finalement, il y a d'autres candidats qui ont... Valérie Pécresse, elle est présidente de la région de France, a fait pas des choses toujours formidables, moins qu'on puisse dire. Parce que j'aurais des choses à dire aussi sur le bilan de Valérie Pécresse. Xavier Bertrand, il est président de la région Hauts-de-France. Il fait peut-être certainement des choses bien, mais pas
réélu,
tout.
Pourtant, mais, hein,
il a été réélu,
pourtant.
On l'a un peu aidé.
Anne Hidalgo aussi a été réélue pour aller dans...
Donc, elle a été réélue. Ouais. Bon. Et donc, le sujet là-dedans, que des grands élus soient candidats à l'élection présidentielle, moi, ça ne me choque pas.
Les grands élus peuvent bien sûr être candidats à l'élection présidentielle, mais il ne faut pas qu'ils soient en décalage entre ce qu'ils ont fait pendant leur mandat d'élu et ce qu'ils proposent par la suite. Et vous avez raison, sans doute, la seule chance du Parti Socialiste d'exister dans cette élection, c'est de revenir aux fondamentaux qu'il a délaissés. Et ça date, et l'évolution date d'avant Anne Hidalgo, bien sûr. Ouais. Et c'est d'ailleurs l'une des conséquences a été que Emmanuel Macron a décidé finalement d'en finir avec le Parti Socialiste. Mais je trouve ça intéressant et je pense que la droite a exactement le même problème qu'un certain nombre de candidats aujourd'hui, vous les avez cités, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, veulent revenir aux fondamentaux de ce qu'était le RPR. Simplement, ça ne fonctionne pas, puisque aux yeux de l'opinion, ils ne sont pas crédibles. Je pense Anne Hidalgo va avoir le même problème.
Est-ce qu'il y a une fin de cycle, d'une certaine manière?
Moi, je crois qu'il y a une fin
de cycle. Hidalgo, parce que d'une certaine manière, elle se fait effectivement évincer dans les sondages d'opinion par Yannick Jadot. Et aujourd'hui, on a tendance à dire que la gauche est verte et non plus rose. Et d'un autre côté, on a effectivement ces critiques sur Paris qui adviennent. Est-ce que ce n'est pas une fin de cycle?
Non, mais parce que là, derrière, je pense qu'elle a fait l'erreur, de mon point de vue, en début de campagne, d'avancer sur une dimension écologiste qu'elle porte aussi et que les socialistes ont aussi en tête.
Il y a le point de écologiste dans chaque programme aujourd'hui.
Oui, donc du coup, c'est pour ça que, du coup, comme je dis toujours, vaut mieux, si vous êtes écologiste, vous pensez que c'est la priorité absolue numéro un, vous avez Yannick Jadot, donc vous prenez Yannick Jadot, vous ne prenez pas Anne Hidalgo. Donc elle,
vaut mieux l'original,
Que la copie. Ouais. Donc elle, son originalité, c'est cette logique, c'est cette histoire socialiste, cette histoire social-démocrate, ce que nous avons porté pendant que nous avons été au gouvernement depuis des années. Donc, et du coup, c'est ça, cet enjeu-là. Donc, elle, je pense qu'elle est en train de se recentrer sur les fondamentaux qui devraient être les siens depuis le début. Elle l'a commencé sur, notamment aujourd'hui, je crois, sur France 3. C'est une bonne marche. Il faut continuer dans cette démarche-là. Un parti qui n'a pas d'identité n'a pas d'électeur. Une candidate qui n'a pas d'identité n'a pas d'électeur. Donc, il faut qu'elle affirme son identité.
Mais c'est quoi son identité?
C'est son identité. C'est une identité social-démocrate.
Vous êtes le seul membre du Parti Socialiste autour de cette table. C'est quoi l'identité d'Anne Hidalgo? Et c'est quoi l'identité du PS?
C'est la question sociale. Et moi, j'ai toujours préconisé, et là-dessus, je donne crédit à M. De Vecchio, c'est que derrière... Là-dessus, nous avons pendant un certain temps trop oublié les classes populaires dans notre parcours. Et je pense que L'erreur, elle date de 2002, quand Pierre Mauroy a dit, dans le programme de Lionel Jospin, il n'y a pas le mot ouvrier, pourtant c'est pas un gros mot, c'est une erreur fondamentale. Et donc là-dessus, je pense que nous, il faut revenir à notre essence de ce pourquoi il y a eu des socialistes au 19e siècle, c'est le socialisme
c'est
est né
possible,
de la question
là,
sociale.
C'est possible en quelques semaines ?
Oui, parce qu'on est... regardez à quelle vitesse ça bouge. Si on s'était vu fin août, est-ce qu'on aurait les mêmes éléments
problème,
qu'aujourd'hui ?
Oui, le problème, c'est également l'éclatement des candidatures entre Montebourg-Mélenchon, n'oubliez pas quand même, qui est devant, largement, qui fait deux fois plus qu'Anne Hidalgo. Comment vous pouvez prétendre à
mais
faire
je
une campagne
rien. Je dis que ça se construit, tout ça bouge.
Au deuxième tour, alors qu'il y a 4-5 candidats qui se présentent.
Jean Schleck, tu sais très bien, tu l'as vécu en 2017.
Il vous voit et vous.
Ben moi, je vous vois par respect pour les auditeurs.
Voilà, mais bon,
vous savez que le tu est exclu, hein, cher Philippe.
C'est vrai,
Philippe
mais je n'ai... Alors, vous, Jean Schleck, non mais... Il y a, en 2017, Benoît Hamon a longtemps été au-dessus de Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Les choses ont bougé. Mmh. On est au début de la campagne. Je veux dire, c'est, les élections, c'est en avril. Il va s'en passer des choses. Regardez les gens à Amboise, tout ce qui s'est passé. Non, mais je ne sais pas. Moi, en tout cas, je m'appelle pas Madame Irma. Je ne dis pas dans l'avenir. Quoi, hein. Donc, je me dis que la politique, c'est un chemin. Et donc, il faut mettre des briques sur le chemin pour construire son chemin.
Que ce chemin soit
non,
propre.
Que voulais-tu dire ? Tiens,
je vais pas tirer sur l'ambulance. Je pense que c'est pas que le fait de Madame Hidalgo d'ailleurs, mais je crois qu'effectivement il y a une fin de cycle des partis traditionnels, que ce soit LR ou les partis socialistes. Effectivement, parce qu'ils ont délaissé depuis trop longtemps leurs fondamentaux, leur électorat, on l'a dit, les classes populaires, et que la plupart des candidats ne sont donc plus crédibles pour incarner ce qu'ils prétendent incarner. Pour LR, c'est la question de l'immigration, de l'Europe. Quand on voit Michel Barnier, ça a été dit tout à l'heure, rogner toute sa vie politique en 15 jours, ça ne marche plus. Il y a une époque, peut-être, ça marchait, les gens qui retournaient sa veste, mais les électeurs ont été trop trahis pour adhérer à cela. Et là, ça va être compliqué quand même. Vous l'avez dit, les classes populaires, mais qu'est-ce que Madame Hidalgo, c'est le maire de Paris, une ville où il n'y a plus de classe populaire, où il n'y a plus de famille, parce que c'est impossible de se loger. J'y vais à grands traits, mais...
Il
ouais,
y a quand même des classes populaires dans l'Est de Paris.
Et elle n'est pas forcément élue, en plus, par les plus humbles à Paris. Donc, cette contradiction fondamentale va être quand même difficile à gérer.
Vous raisonnez au mètre carré, en fait. C'est pour ça, au prix
je,
du mètre carré.
Oui, et je raisonne. Ouais,
mais en
exactement.
Réalité, il y a des classes populaires aussi parce que dans certaines familles, il y a des appartements qui sont possédés depuis longtemps. Donc dans ce cas-là, il y a des classes populaires.
Il y a des quartiers avec du logement social.
Il y a
des arrondissements avec du logement social.
D'accord, mais ça fait quand même une ville où il n'y a pas beaucoup de mobilité sociale. Je ne jette pas la pierre à des gens qui ont la chance d'être des héritiers. Ils peuvent être classe populaire en étant des héritiers. Mais enfin, quand on est logé à Paris par ses parents, on est moins dans la détresse que d'autres. Donc voilà, je ne jette pas la pierre, mais il se trouve qu'effectivement, il y a une logique de gentrification des centres-villes qui a été poussée à son paroxysme à Paris. Et ensuite, c'est difficile quand on a été porté par ça, par ce phénomène, de dire « je vais parler aux classes populaires ». C'est difficile de dire « on va baisser la taxe sur les carburants quand on mène une politique écolo anti-voiture qui empêche les banlieusards de venir à Paris ». Donc ça ne peut plus fonctionner comme ça. Et ce à quoi on assiste, et on l'a déjà assisté avec Emmanuel Macron, c'est effectivement à un fin de cycle et à des électeurs qui partout cherchent des solutions alternatives et disent nous on ne fait plus avec les anciens partis politiques, il faut rompre avec cette logique-là.
Non mais moi je crois que tout ça c'est des sujets qui font partie des préoccupations des Français, mais n'oubliez pas qu'une élection présidentielle c'est d'abord de tracer un dessin pour la France, c'est de montrer un chemin pour la France, c'est-à-dire élever le débat, c'est ça l'élection présidentielle. Après on discutera du social, du logement, mais d'abord où est-ce qu'on va, où est-ce que la France va? Souvenez-vous, Chirac, c'était la fracture sociale. Sarkozy, c'était le travail, travailler plus. Voilà, ça parlait aux Français. Et pourquoi Éric Zemmour, aujourd'hui, a le succès, dans les sondages en tout cas, que l'on connaît ? Parce qu'il a tracé un chemin en disant, aujourd'hui, la question, elle est civilisationnelle. Oui. Bon, on peut être contre, hein, évidemment, hein, mais en tout cas, il y a un dessin, il y a une sorte de destin, en quelque sorte, qui est proposé. Et aujourd'hui, à part ce discours-là, je n'entends pas.
Mais Éric Zemmour, je suis d'accord avec vous, il faut effectivement tracer un dessin, mais Éric Zemmour a la personnalité, le parcours qui cadre avec le dessin qu'il entend tracer.
Merci à Georges Fenech, à Alexandre Devecchio, Philippe Doucet et Prisca Tevdo qui restent jusqu'à 20h à mes côtés. On va parler cinéma dans un instant, à tout de suite.